Et j'ai le plaisir de parler avec Marguerite Blais. Est-ce qu'elle a besoin de présentation? Personnalité publique qui a été ministre responsable des aînés des proches aidants. Et elle vient de publier un livre intitulé « Le Marguerite Blais au nom des aînés » en compagnie de Guillaume Nadon, ancien attaché politique, maintenant coordonnateur du Salon des aînés de Saint-Jérôme. Et c'est Marguerite Blais qui est au bout du fil. Êtes-vous au Salon du livre de Québec, Madame Blais?
Pas actuellement, mais j'y serai en fin de semaine, samedi, dimanche.
D'accord.
J'y serai sur l'heure du midi, là, comme samedi, c'est de midi à 13h30 et dimanche, c'est 11h30.
Bon, alors vous allez à la rencontre de vos lecteurs, vos lectrices. Avant de parler du livre...
Potentiel aussi.
Pardon?
Potentiel.
Oui, oui, des gens qui vont s'intéresser à vous et à votre livre, j'en suis convaincue. Mais justement, avant de parler du livre, dites-nous dans quelles circonstances ce projet à deux, parce que vous l'avez écrit en collaboration avec Guillaume Nadon, est-il né?
Écoutez, la suite de la pandémie, et lorsque j'ai pris ma retraite de la politique en 2022, je me suis rendu compte que j'avais fait vraiment une dépression profonde et il y avait vraiment un malaise là. Je me sentais extrêmement coupable de ne pas avoir été en mesure de sauver autant de personnes aînées qui étaient décédées des suites de la pandémie, de la COVID. J'avais reçu des menaces de mort, les trolls se faisaient aller, etc. Et j'ai croisé Guillaume qui m'a dit, écoute, pourquoi t'écrirais pas un livre? Je dis, non, je suis pas capable, je me sens pas bien, je me sens pas assez forte pour le faire seule. Et de fil en aiguille, j'ai dit, Guillaume, ce serait bien, il y aurait toute une symbolique intergénérationnelle. Guillaume Nadon aura 30 ans le 7 mai. Et on a 45 ans de différence, mais il y a quand même beaucoup de connaissances au niveau des aînés ayant fait sa maîtrise au niveau des politiques et programmes qui concernent les aînés au Québec. Alors, c'est comme ça que c'est commencé. Je vais poser des questions, puis pose des questions et j'écris très, très longtemps. Et parfois, il donne son opinion aussi. Alors, c'est intéressant de voir l'opinion d'un jeune versus une personne qui est vieille, là, qui aura 76 ans. Et ça fait la démonstration aussi que c'est pas parce qu'on vieillit qu'il faut se couper du reste de la société. Bien au contraire, il faut rester ancré dans la société avec toutes les générations.
Mm-hmm. Marguerite Blais, qu'est-ce qui vous intéresse tant chez les aînés? D'où vient cet amour pour les personnes âgées? C'est depuis toujours?
C'est depuis mon papa, je dirais, qui a voué un culte extraordinaire à sa mère. Ma grand-mère est décédée quand j'avais 10 ans. Elle avait un cancer généralisé. Mon père était avec elle à tous les jours. Changeait ses draps, marchait de la petite Bourgogne jusqu'à Pointe-Saint-Charles. Il n'y avait pas d'automobile parce que sa mère voulait pas qu'il y ait une automobile. Elle avait peur aux accidents. Mon père avait 41 ans. Et par la suite, je crois que ça vient au départ d'un milieu familial, mais j'ai commencé à travailler à la radio de Radio-Canada avec une chronique quotidienne sur les personnes âgées. On les appelait le troisième âge, le bel âge, l'âge d'or. Après ça, c'était le quatrième âge, etc. Et j'ai fait partie d'un comité sur les abus à l'endroit des personnes âgées en 1987. Donc, il y a eu une suite, un concours de circonstances. Et quand on m'a demandé de faire de la politique, c'était pas tellement l'engagement pour le parti politique qu'un engagement social. Et Jean Charest avait promis un ministre des aînés. Alors, dans mon esprit, je convoitais ce poste, mais ça veut pas dire que parce que je le convoitais, je l'aurais. Mm-hmm. J'ai été élue et je l'ai eu. Et l'histoire a fait que j'ai été pendant 12 ans, un peu plus de 12 ans en politique. Dont plusieurs années comme ministre des aînés dans deux gouvernements différents.
Oui, et on voulait vous nommer ministre attitré, vous vouliez être nommé ministre responsable des aînés et des proches aidants. Ça, c'est pour le troisième mandat, je crois.
Ça, oui, parce que j'étais retournée en politique à l'âge de 68 ans, alors que j'étais à la retraite. Le but était réellement pour faire avancer les dossiers qui touchent les proches aidants. J'avais été proche aidante de mon mari. Je savais combien les gens souffraient. Je donnais des conférences, je parlais de mon histoire avec mon mari, puis je voyais les gens dans la salle pleurer, pas à cause de mon histoire, mais parce que mon histoire était leur histoire.
Oui.
On vit les mêmes histoires. Alors, je me suis dit, c'est incroyable. Alors, j'ai écrit un livre avec, je l'ai terminé avec Rosette Pipard et c'était l'année électorale en 2018 et je disais au gouvernement, pas au gouvernement, mais au parti politique, il faut absolument vous engager envers les prochains temps qui travaillent. Il y en a qui meurent avant la personne aidée. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de reconnaissance, si peu. Alors, je suis retournée en politique, puis j'ai eu la chance de faire la politique et le plan d'action pour les prochains aidants et la loi. Il y a une loi maintenant qui vient encadrer la reconnaissance des prochains aidants. Maintenant, c'est au futur et au présent politicien de faire avancer le dossier, mais on est une société vieillissante. Hein?
Oui.
21% de la population est âgée de 65 ans et plus, donc les prochains aidants... Parfois, ce sont des jeunes, hein, des enfants, des ados qui s'occupent de leurs parents. Mm. Puis il y avait des parents qui avaient des enfants en situation de handicap qui n'étaient pas reconnus non plus comme proches aidants. Ce sont aussi des proches aidants, des parents et des proches aidants, des gens parfois qui doivent quitter le travail pour s'occuper à temps plein d'une personne malade. Alors, c'est un dossier qui m'apparaît essentiel. Et si on a voulu sortir le livre très rapidement, c'est parce que la conclusion du livre Au nom des aînés, le dernier, c'est que ça prend maintenant un ministère totalement dédié au vieillissement aux personnes âgées.
Oui.
Il ne peut plus être dans le ministère de la Santé. Les personnes qui vieillissent ne sont pas toutes des personnes malades.
Mais est-ce que vous avez espoir qu'on vous entende, qu'on fasse quelque chose de plus, que le dossier, que le ministère soit plus reconnu et qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne plus d'argent parce que justement on est une population vieillissante et que l'approche aidance, ça a ses limites?
Bien, s'il n'y a pas un parti politique qui s'engage pour ça, j'espère que les 21%, le 1,8 million de personnes âgées de 65 ans et plus en forme, là, parce qu'il y en a 2,3 dans les CHSLD, 2,3%. On va faire une parade de casseroles, là.
Oui.
Il faut que...
C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, là, mais oui, ça prendrait ça.
C'est parce que, regardez, là, je suis en forme, moi, je vais avoir 76 ans, je fais des taxes, des impôts, je suis pas retirée de la vie. Tu sais, la question de l'âgisme, la question de la perception quand on est à la retraite, c'est comme si on se retirait de la vie. C'est comme si on était plus utile. Il me semble que vieillir, c'est pas une maladie, c'est un privilège, puis c'est un art, l'art de pouvoir vieillir et de pouvoir influencer aussi les générations montantes. Et puis, on a aussi un devoir de respect envers les plus vulnérables. On a parlé beaucoup des aînés vulnérables pendant la pandémie, mais est-ce qu'on en parle maintenant? Pas si souvent que ça. Mm-hmm. Seulement quand il y a des choses là, terribles qui arrivent au niveau de la maltraitance ou au niveau de ce matin, là encore, il y avait une histoire de personne de 90 ans, là, 99 ans qui a reçu une lettre comme quoi elle avait un médecin de famille.
Oui.
Alors dans un CHSLD, là, on est soigné, on reçoit des soins. Là. Mais autrement, on n'en parle pas souvent. C'est pas un sujet qui je veux dire...
Qui est sexy.
Entre guillemets. Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est pas sexy. Puis on n'a pas apprivoisé la mort, puis on a de la misère avec le vieillissement. On n'apprivoise pas le vieillissement, alors que c'est aussi une belle étape de la vie, le vieillissement.
Oui, vous trouvez que c'est une belle étape. Il y en a qui trouvent que c'est quelque chose d'épouvantable. J'entendais, je pense que c'était Ginette Renault là, qui va avoir bientôt 80 et puis qui trouve que c'est extrêmement difficile, qu'elle préfère la jeunesse à la vieillesse. Mais à un moment donné, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable aussi, là, non plus.
Je ne vous dis pas que je préfère la vieillesse à la jeunesse. Là, tu sais, je veux dire, on voudrait tous être jeunes là, puis revenir en arrière, mais c'est pas possible. Mm. Mais un des phénomènes intéressants avec le vieillissement, en tout cas dans mon cas, ben, tu sais, je m'enfarche plus dans les fleurs de tapis comme auparavant. Certains petits détails, maintenant, ça n'a plus la même importance.
Faites la part des choses, vous relativisez avec votre expérience.
Oui, puis je veux plus en vouloir à personne. Je veux pas perdre de temps sur ces choses-là. C'est pas important. J'essaie de faire du bien autour de moi. J'essaie d'être souriante. J'essaie de profiter à chaque instant de la vie qui passe. Alors, on a une autre approche. Quand on est jeune, on veut réussir sa carrière, on veut réussir sa famille, on veut tout réussir, on travaille comme des fous. Puis en vieillissant, ben on fait des choix aussi.
Et Marguerite Blais, dans votre livre, je me demandais, parce qu'on apprend plein de choses, et je me demandais l'objectif de ce livre-là, est-ce que c'était de remettre les pendules à l'heure, faire mieux comprendre le fonctionnement de la machine politique, parce qu'on va dans les coulisses et il y a quelque chose de très intéressant, de passionnant, ou vous vouliez aussi proposer des solutions, un ensemble de tout ça, là?
Ben c'est tout ça. C'était thérapeutique au départ. Par la suite, on connaît pas tant que ça les rouages de la vie interne au niveau politique. Comment ça se passe à l'Assemblée nationale, les amitiés, les gens me rencontraient. Ton garde du corps, Marguerite, il dort où?
Ben oui, vous en aviez un. On apprend ça que vous en aviez même deux à temps plein. Là. Chaque ministre a ses gardes du corps.
Oui, absolument. Un qui prend la relève le mercredi. Jusqu'au mercredi suivant, c'est-à-dire la journée du Conseil des ministres. Alors, je disais aux gens, quand ils me posaient la question, il dort où ton mari? Ben, je disais, entre mon mari, puis moi, pas ton mari, mais ton garde du corps.
Oui, oui.
Je disais, entre mon mari et moi, puis on riait, tu sais.
C'était mais, presque la réalité.
C'est presque la réalité. Puis il y a le message aussi. Mais il y a surtout que, malgré que ce soit tellement dur pour les politiciens, là, c'est une vie infernale. Et de nos jours, avec tous les réseaux sociaux, c'est la nouvelle qui est analysée à l'instant même. Tu sais, il y a des gens qui ont peur d'aller en politique. Ils se disent pourquoi leur donner autant de temps et d'énergie.
Est-ce que ça vaut la peine d'y aller?
Ben, écoutez, regardez la démocratie à travers le monde. Elle va tellement mal. Si on veut vraiment qu'il y ait des actions concrètes, comme pour les proches aidants ou pour les personnes en situation de handicap ou pour l'économie ou pour l'éducation, il faut s'engager. C'est le seul endroit où on peut déposer des politiques, des plans d'action, faire adopter des lois aussi. Alors moi, j'encourage les jeunes et les moins jeunes d'y aller en politique, tu sais, parce que sinon, notre démocratie va mourir. C'est pas très fort à travers le monde, là, ce qui se passe, là.
Ça, alors, tout le monde est d'accord avec vous.
La dureté, malgré la dureté de la politique, je crois que ça en vaut la chandelle. Mais vous savez, je pense que c'est l'un des rares métiers où tu es choisi par des électeurs dans ta circonscription, mais que tu es aussi mis à la porte par les mêmes électeurs.
Mm-hmm. C'est vrai.
Tu sais, c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est dichotomique parce que tu es élu, tu es choisi, mais en même temps, en partant, c'est 50 % de la population qui ne t'aime pas.
Oui. Mais être artiste aussi, c'est ça. On peut devenir très, très populaire et puis à un moment donné, perdre cette popularité-là. Et si je me concentre sur un des chapitres où vous parlez de la COVID-19, la pandémie, qui a été un moment critique, particulièrement pour les aînés, vous le disiez tantôt, vous êtes rendu compte que vous avez fait une dépression en lien avec toute la situation catastrophique où on a perdu beaucoup, beaucoup de personnes âgées qui sont mortes dans des CHSLD abandonnés. Vous aviez reçu des menaces de mort. On vous faisait porter le blâme, le dieu des décisions qui étaient prises à l'égard des aînés. Et dans le chapitre sur la COVID-19, on sent que c'est un chapitre qui a été difficile, j'imagine, à écrire parce que ça a été un chapitre de votre vie qui a été difficile à vivre.
Oui, c'est un chapitre qui a été très difficile parce que, vous savez, quand on fait partie d'une équipe de hockey, on joue en équipe. Hein?
Oui.
Et puis, c'est pas toujours ton choix. C'est le choix du coach ou c'est le choix. Les aînés étant dans le ministère de la Santé, il y a beaucoup de décisions qui étaient prises d'un point de vue hospitalo-centrique, comme quand on a pris la décision de préparer les hôpitaux. Je ne blâme personne, mais c'était à la lumière de ce qui se passait en Italie puis dans d'autres endroits où les hôpitaux étaient bondés. Chez nous, on n'a pas vu là le feu prenait dans les CHSLD. Là. Et puis, j'étais pas d'accord avec le fait qu'on empêche les proches aidants d'entrer. J'étais en désaccord avec le transfert des personnes âgées des hôpitaux aux CHSLD parce que j'avais peur à la contamination. Mais vous savez, tout le monde a fait son possible. On connaissait pas ce virus-là. C'était partout à travers le monde. Il n'y avait pas de médicaments. C'était difficile.
Il y avait la fameuse image là, de l'avion qu'on construisait en plein vol. Là.
C'est vrai. Ouais. Moi, je me souviens, là, écoutez, il y avait un sous-ministre à la Santé qui, la nuit, achetait du matériel pour protéger les employés. Puis le matériel était détourné, là. C'est vrai, là. L'avion avait été se déposer aux États-Unis. Le matériel avait été détourné. Pourquoi il y avait des gens disent, mais pourquoi il n'y avait pas de matériel? Ben, c'est parce que c'était une époque où on achetait, comme on dit en anglais, just in time. Donc, on stockait pas trop de matériel. D'une part, parce que ce matériel-là, à un moment donné, devient périmé rapidement, mais aussi parce que c'était comme ça partout, là. Partout. Donc, tout le monde cherchait du matériel de protection à travers le monde. Et puis, ça a été. Puis, en plus, on avait la vétusté des CHSLD. Comment voulez-vous protéger des personnes qui partagent des toilettes, qui partagent une salle de bain, c'était comme impossible. Des employés qui ont une cuisine qui est grande comme un garde-robe. Alors,
il y a eu beaucoup de prises de conscience des prises de conscience difficiles, des décisions aussi qui sont pas faciles à prendre, mais je pense que la plupart des gens ont fait de leur mieux. Là, on cherchait pas à tuer personne. La préface est signée par la regrettée Béatrice Picard, qui est décédée à l'âge vénérable de 96 ans. En quoi Béatrice Picard vous a inspiré, Marguerite Blais?
Ben, écoutez, j'ai été la marraine des petits frères des pauvres entre Juliette Huot et Jean Bessery.
Oui.
Béatrice a été la marraine des petits frères des pauvres pendant à peu près 20 ans, je crois. Moi, ça a été un organisme que j'ai toujours soutenu. Même quand j'étais pas ministre, j'allais passer les Noëls avec les petits frères au centre Sheraton à l'époque. Alors, je voyais fréquemment Béatrice Picard. On mangeait à la même table, on allait voir les aînés. Quand je suis redevenue ministre, ben Béatrice est encore là. On vivait encore les Noëls ensemble. On vivait plusieurs occasions ensemble. Alors, je trouvais que c'était important qu'on ait aussi cette autre génération, les trois générations dans le livre. Béatrice était tellement contente de participer à ce livre-là. Et c'est la dernière, je dirais, action sociale, que Béatrice a fait avant de mourir. Et Guillaume est allé recueillir ses paroles, Guillaume Nadon, et moi, je lui ai parlé au téléphone. Des journées, elle était bien, d'autres journées, elle était moins bien. Mais elle était surtout tellement attristée de ne pas pouvoir être sur les planches jusqu'à l'âge de 100 ans.
Oui, c'était son rêve de mourir sur les planches. Mais elle a quand même fait son métier jusqu'au bout, pas 100 ans, mais presque. Et ben c'est là-dessus qu'on va se laisser, Marguerite Blais. Si ça vous tente de devenir chroniqueuse aînée dans mon émission, moi, je vous accueillerai à bras ouverts.
Ben écoutez, vous me faites une proposition publique, là.
Ben oui, mais on se parlera peut-être de façon personnelle. Ça me tentait de faire ça parce que moi, j'ai bien connu votre mari à l'époque où j'étais à Rock Détente, Jean-Guy Fauché, qui était directeur musical et que j'ai trouvé extrêmement sympathique, qui avait un sens de l'humour et ça m'avait fait beaucoup de peine d'apprendre qu'il était malade. Alors, Marguerite, je vous souhaite la santé puis un bon salon du livre.
Puis on se reparle pour la chronique, on ne sait jamais.
Avec grand plaisir.
Oh, merci pour cette belle entrevue.
Merci à vous, Marguerite Blais, au nom des aînés, publiés aux éditions Libre Expression. À une prochaine.
Merci.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci, Mathieu. Bonne fin de semaine à tous et à toutes. À bientôt.